C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi avec l'association 4 quarts qui se penche sur un vrai sujet, l'alimentation à l'ère du changement climatique.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait déguster et savourer le Finistère. Nos partenaires de l'association 4 quarts sont là dans un dernier LEM de cette saison, en tout cas on les retrouvera sans doute à la rentrée. Et vous les retrouvez aussi une fois par mois dans l'émission Oustol à table en breton, un jeudi sur deux à 13h30 et même en DAB+, sur notre radio régionale BOA, Braise on Air. L'association qui explore l'alimentation dans toutes ses dimensions, sociales, culturelles, gourmandes, historiques, politiques. Cette association 4 quarts associe donc l'alimentation à de grands enjeux très sérieux, si ce n'est grave. Manger, certes, c'est un plaisir, la gourmandise est un bon défaut, mais la façon dont on produit de la nourriture, la manière dont on la consomme, tout ça a un impact sur d'autres aspects de notre vie, comme l'environnement, la pollution, la santé, le climat aussi, si si. Et puis, si le climat change, on aura envie, peut-être, on aura besoin aussi de manger différemment. Avec nous pour discuter de l'alimentation à l'ère du changement climatique, Sophie Couca, Françoise Doucet et Pascal Osier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'alimentation à l'ère du réchauffement, il y a deux axes en fait, mais on va peut-être développer davantage cet axe sur une alimentation qui contribue le moins possible à l'effet de serre et qui s'adapte aux conséquences du changement climatique.
C'est déjà un vaste sujet.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire qu'est-ce qui est bien établi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question déjà? Sur la consommation de viande, déjà, pour commencer, par exemple
Oui, ben c'est un fait. Une protéine de viande à produire, ça impacte 6 à 12 fois plus en termes d'empreinte carbone qu'une protéine végétale.
Voilà, déjà.
Je voudrais déjà apporter une nuance. Il y a plusieurs façons d'élever les bêtes, et forcément, c'est pas du tout la même chose selon.
C'est sûr. Alors, si on est en mode entonnoir, oui, mais on voit.
Voilà. C'est quoi en mode entonnoir?
En mode entonnoir, c'est qu'effectivement, il y a ce que je dis moi et puis ce que Sophie précise, donc ça va de pair.
Oui, oui.
Non, mais c'est vrai que les modes d'élevage, on va dire, industriels ou semi-industriels, où les animaux sont dans des bâtiments, ne sortent pas, toute l'alimentation qu'ils ont sont fabriquées. Alors, bien sûr, ça vient de végétaux qu'on a fait pousser, mais enfin, sont transformés.
Et puis,
les déjections peuvent venir de l'autre bout de la terre.
C'est pas le champ qu'on broute à côté, quoi.
Exactement. Les déjections, elles sont concentrées. Enfin, c'est pas du tout le même impact que, par exemple, des vaches qui sortent dans les champs, leur déjection vont servir à nourrir les sols. Enfin,
Moyenne quand on annonce ces chiffres-là.
Quand on parle de viande par rapport à... on mélange vraiment les torchons et les serviettes.
Oui, d'où l'idée qu'on n'est pas sur l'arrêt total d'une consommation de viande, mais c'est de la réflexion sur si on en consommait moins et meilleur, comme d'habitude. Quoi. Enfin, voilà.
Ça devrait déjà être un problème sur comment on la produit. Enfin, comment la viande arrive.
Au niveau des politiques, c'est vrai qu'en restauration scolaire, avec la loi Egalim, par exemple, on propose depuis, ça c'était 2019, un repas végétarien, ce qui permet juste de diversifier en fait la source des protéines. Je trouve que c'est une bonne chose. Et ça ne remet pas en cause le fait qu'on mange de la viande à côté. Ça juste, ça permet d'ouvrir de nouvelles voies.
Ouais. Puis ça donne l'idée qu'on peut très bien faire un repas complet sans manger de viande.
Bah oui.
Ce qui avant la cuisine française, c'était toujours une viande avec un petit accompagnement à côté. Et là, on peut peut-être changer le prisme aussi. Quoi.
La protéine végétale, les légumineuses, pas mal, l'associer à une céréale, juste pour avoir cette répartition complète.
Tous les nutriments.
D'acides aminés, et pour pouvoir vraiment se construire le muscle, etc. Pour qu'il y ait tous les acides aminés essentiels. Si on prend soit l'un, soit l'autre, on n'a pas le compte.
Alors cette question de la viande, enfin je suis partie de cet exemple-là, mais en fait il y a l'ADEME, l'Agence du développement durable et de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie, qui a fait des recommandations en matière alimentaire. Hein.
Oui, alors en fait l'ADEME, effectivement, ils vont proposer des scénarios prospectifs dans une démarche de décarbonation.
Ils s'intéressent à l'alimentation aussi.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc ils prônent une génération plus frugale avec une question de de sobriété, en fait, de manger de façon plus sobre, une génération plus frugale. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dedans. Ils sont pour des technologies un peu plus vertes. Bon, on est plutôt sur des coopérations territoriales, avec plus des gouvernances partagées. Donc, ça, c'est un axe aussi qu'ils prônent. Et ils se posent la question aussi, quel modèle industriel vont être mis en place de fait avec cette évolution, parce qu'on va y passer.
Mmh. Oui, donc les modèles, ce qu'on disait avec Sophie, comment est-ce qu'on produit notre nourriture ?
Oui, c'est juste parce que produire, ça évoque quand même justement un modèle industriel. Or, il y a des tas d'autres modèles, et on sait que le modèle industriel, il nous envoie dans le mur. Donc à un moment, il faut bien... Il faut bien. Et puis, est-ce qu'on en aura encore les moyens ? Parce que même si on se dit, OK, on continue, est-ce qu'on aura les moyens énergétiques de le faire tourner ? Est-ce qu'on aura les moyens logistiques ? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que les choses bougent énormément, les produits circulent énormément. La circulation, ça a un coût énergétique et ça a un coût d'organisation. On voit bien, aujourd'hui, il y a une guerre, un endroit stratégique, la logistique, ça a un impact. Or, la nourriture bouge beaucoup. On a beaucoup de soit pour nourrir les animaux, pour être fabriqué. Il y a des choses, par exemple, quelque chose qui était... Alors, je ne m'avance pas, c'était il y a encore 5-7 ans. Bon, peut-être que ça a bougé, mais tous les boyaux du monde, c'était nettoyé en Chine.
Ah oui, pour la nourriture industrielle.
Vous faites de la saucisse, vous avez votre cochon, vous allez sortir le boyau, parce que souvent, et c'est le boyau que vous allez qui va servir d'enveloppe pour faire la saucisse.
Donc on les envoie
en Chine pour être nettoyé. Chine.
Oui, donc voilà, quand on sait l'impact des transports, même maritimes, sur le changement climatique, on peut se poser la question.
Et se demander si ça sera encore possible. Parce que le changement climatique, ça va être de plus en plus d'événements.
En Chine, d'ailleurs, ils se payent des inondations monstrueuses.
Exactement, des tempêtes. Il faut se dire que ça va avoir un impact énorme sur la logistique, sur le transport, sur la logistique.
Mmh. Et il y a les routes coupées, il y a des ponts qui sont effondrés.
Et cet impact-là, il va avoir. Le premier champ qui va être impacté, c'est la nourriture.
Le serpent se mord la queue. Oui, Françoise.
J'ai écouté une interview de Lydia et de Claude Bourguignon, qui sont des chercheurs à l'INRA, qui sont à la retraite maintenant. Et ça a fait écho par rapport à ce que dit Sophie, et puis par rapport aux événements actuels, avec le blocage du détroit d'Hormuz notamment, par rapport à l'acheminement des engrais.
Des engrais. Les engrais synthétiques.
Des engrais synthétiques qui viennent là pour fertiliser le sol. Et ces deux ingénieurs agro qui prônent, en fait, leur travail, ça a été vraiment de sur quel sol, quelle culture mettre. Eh bien, ils se sont rendus à l'évidence qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sol fertile. Il n'y a que des sols qui sont fertilisés avec les engrais.
Et ça issus pose, du pétrole, d'ailleurs.
Issus du pétrole. Et ça pose, justement, et c'est un enjeu, ça pose la question majeure de se dire, demain, si on a 20% ou 30% d'engrais qui arrivent en moins, quel impact sur les rendements et quel impact sur notre alimentation, qui plus est, si en plus il y a des ruptures d'appro. Enfin, je ne veux pas mettre en place un scénario un peu, mais c'est quand même important de se poser la question. Et on est de plus en plus sur du hors-sol, ou alors sur la terre qui ne devient qu'un support pour produire. Alors qu'on n'a pas pris en compte que la terre, c'est du vivant, et que la terre est bien plus qu'un simple support. Et eux, en fait, ils ont 60 ans de recul, presque plus de 60 ans de recul, et ils mettent en évidence il faut absolument repasser, changer les pratiques. Et je pense que quand on parle d'alimentation, faut commencer par le départ, c'est-à-dire la production sur le sol. Et eux, ils se disent, OK, il faut plus les solutions, parce que du coup, on essaye de trouver des solutions. Il faut plus être dans la rotation, plus comprendre les rotations.
Ce qu'on faisait avant, les rotations de culture.
Et puis, les équilibres physico-chimiques qui se créent. Il faut plus travailler sur les associations, Par exemple, par exemple, une légumineuse, on peut l'associer à une céréale qui va servir de
en culture,
de, en ouais, culture ouais. Qui va servir de support, céréales, ouais. Et puis avec des plantes plus couvrantes, de façon à éviter l'évapotranspiration. Et ça, c'est important. Ils disent aussi, ah oui, mais ok pour l'alimentation, mais si on veut produire, repassons par le sol, il faut aussi regarder la vocation des sols. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quelle culture sur n'importe quel sol. Oui. Et aujourd'hui, on s'en fiche, puisque... met du fertilisant. Mmh. Si demain, on n'a plus de fertilisant, il va falloir repenser les choses.
C'est ça. Mais ça sera de l'agronomie.
Cette question de comment dire, on perd notre savoir. On perd le savoir agronomique. Ce que nos anciens faisaient, on l'a perdu.
Et sans compter que, comme le climat évolue, de toute façon, les conditions seront différentes. Ça ne sera pas seulement une question de sol, ça sera une question de, de température, d'humidité, de l'air, quoi, cette fois. Ouais.
J'ai une amie qui est donc à l'INRA aussi, et qui me dit, mais à l'INRA, nous, on a ces variétés qui résistent à la sécheresse, qui résistent, on les a, seulement elles ne sont pas produites sur le terrain. L'INRA peut proposer aussi des variétés résistantes au stress hydrique, des vieilles variétés.
Ou des nouvelles qui viennent d'ailleurs comme le sorgho, on le voit quand même de temps en temps.
En tout cas, ils peuvent transmettre gratuitement. Mm-hmm. Voilà, donc c'est important à savoir.
Alors justement, on parlait de stress hydrique, il y a quand même une donnée très, très liée à l'alimentation, c'est l'eau, les économies d'eau. Alors en production certes, ça peut être aussi en cuisine. Hein. On peut quand même aussi commencer à dériver un peu sur la deuxième partie de l'émission, à savoir comment manger en économisant davantage de l'eau. Est-ce que vous avez des idées sur cette question ?
L'eau de salade, on la garde déjà.
Pour arroser.
Pour arroser.
Ou on ne mange pas de salade.
C'est très bon la salade.
Oui, manger de la salade, vous ne serez jamais malade.
Moi c'est vrai que je garde aussi l'eau de cuisson, après refroidissement, l'eau de cuisson, je sais pas, des artichauts, tout ce qui cuit avec beaucoup d'eau.
Je crois que je reviens de l'île de Groix et sur les îles, en fait, ils ont beaucoup plus compris le problème d'eau. Quand même on est sous la douche avant de se savonner, on garde l'eau froide avant qu'elle ne devienne chaude, et après ils prennent les seaux et avec ces seaux-là ils descendent et ils vont arroser aussi les plantes. Ils ont beaucoup mieux compris, je trouve, que la ressource n'était pas inépuisable en eau. Je trouve qu'on devrait aller faire des petits stages un petit peu sur les îles.
Oui, il y a les récupérateurs d'eau, suffisamment en Bretagne, il n'y a pas besoin de mettre des seaux, mettre des récupérateurs, c'est vraiment bien. En plus, ça conserve mieux.
Oui, ça part vite.
Dans les seaux aussi, ça part
oui,
vite.
C'est sûr.
Oui, mais les récupérateurs, tu les remplis l'hiver, mais après l'été, tu ne les remplis plus. Que l'été, en période estivale, tu prends quand même ta douche. Donc ça contribue.
Ah oui, moi je garde toujours l'eau froide.
Mais le climat breton étant en train de changer, en tout cas là on a l'impression d'avoir des saisons, l'alternance de saisons sèches et saisons humides. Bon, c'est vrai que la gestion de l'eau, ça va se poser. Bon, alors à l'échelle de la production locale, peut-être qu'effectivement il va falloir songer à des réservoirs d'eau, non pas des méga bassines, mais des réservoirs pour la culture. Enfin, j'imagine que c'est déjà un peu dans les tuyaux.
C'est le cas de le dire.
Merci Pascal. Non, puis il y a des modes, il y a aussi, bon là on n'a pas d'agriculteur ou d'agricultrice avec nous, mais il y a des modes, des façons de cultiver, des champs, d'aménager ces champs qui permettent de garder l'eau sur place, avec des talus en crête notamment, pour empêcher le ruissellement et conserver l'eau dans la terre.
Et il y a le fait de ne pas laisser la terre nue.
Le paillage,
effectivement les plusieurs étages, le fait d'être sous des arbres aussi, il y a de plus en plus de cultures qui se font sous des arbres, tout ça pour effectivement économiser l'eau, garder l'eau.
Une autre donnée aussi, on l'a dit un petit peu, on a parlé de logistique, de transport, c'est la proximité alimentaire, c'est-à-dire resonger à produire un peu de tout, un peu partout. Enfin, c'est-à-dire arrêter avec des modèles, des grosses fermes qui produisent qu'un seul produit.
Mais la variété, quoi.
Revenir à la polyculture élevage, et disséminer.
Puis accepter qu'il y a peut-être des produits qu'on ne mangera pas. Parce que c'est pas du tout notre climat, c'est pas du tout notre territoire, et que
fini le café, fini le chocolat.
on peut
ça viendra de plus en plus cher.
Voilà. C'est ça. On va peut-être sûrement de plus en plus luxueux.
En revanche, on va pouvoir cultiver de plus en plus d'agrumes chez nous, peut-être.
Alors, les agrumes, moi, je vais profiter de l'occasion pour tirer quand même, signaler aux gens qu'il y a une maladie. Alors, malheureusement, j'aurais dû préparer le nom de la maladie. C'est une maladie des orangers qui s'est d'abord déclarée en Californie et qui est donc s'est répandue dans toute l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. On sait qu'elle est arrivée en Europe. Il faut 15-20 ans pour que la maladie tue l'arbre. Et aujourd'hui, on n'a aucune solution.
Mais c'est peut-être sur une variété spécifique
non,
d'orange.
Voilà, non, c'est tout ça.
Et même les citronniers, tout ça.
Alors, je sais pour les oranges.
La feuille ou le fruit.
On a identifié la maladie.
On l'a identifié. C'est pour ça que j'ai dit j'aurais dû chercher le nom. Mais enfin, c'est pour prévenir les gens qui aiment les oranges qu'ils ont intérêt à en manger maintenant parce qu'on sait qu'on va vers une pénurie d'oranges.
C'est ça le problème du changement climatique.
Il y aura une réelle, et en plus,
c'est ça, l'émergence des maladies.
Exactement, ça illustre aussi ce problème-là. Et ça va trop vite pour que les plantes s'adaptent. Il y a toujours eu des maladies. Enfin, il faut quand même rappeler, par exemple, que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord était couverte de châtaigniers. Et aujourd'hui, il n'y en a plus un. Enfin, s'il y en a un, il est justement un peu connu pour ça, parce qu'il était dans un coin complètement isolé. Parce qu'il y a une maladie qui est arrivée par un bateau, un bois qui était contaminé. Et en 40 ans, ça a été très vite, en 40 ans, ça a détruit tous les châtaigniers d'Amérique du Nord. Donc ça va.
C'est pas revenu chez nous, heureusement.
Les maladies, et d'ailleurs, ils ont essayé de replanter avec justement, un peu comme nous, on a fait avec la vigne. Enfin bref.
Oui.
Faut voir aussi, effectivement, l'impact des maladies sur notre alimentation, parce que les plantes aussi sont malades. Et qu'aujourd'hui, avec le transport, ça circule de plus en plus. Et le changement climatique rend les plantes encore plus fragiles, donc elles ont encore moins la capacité à résister à ces maladies. Et ça peut avoir des impacts, des impacts vraiment terribles. Je vous dis, 40 ans, ça a éradiqué des centaines de millions d'arbres.
Bon, alors super. Un autre sujet lié au climat et à l'alimentation, c'est l'idée que si on passait à une culture, une production agroécologique, on n'aurait pas de quoi nourrir tout le monde.
Or, ça c'est faux.
En fait, on m'a rappelé qu'il y a quand même un petit problème qu'on oublie de citer, c'est celui du gaspillage alimentaire, notamment.
Bon.
30% en gros, enfin un tiers de ce qui est produit en alimentation dans le monde ne termine pas dans les corps humains.
Bah oui, à tous les niveaux, ça commence en production, à toutes les étapes. Quand on travaille sur la réduction des déchets alimentaires, on prend toutes les étapes de transformation et on voit là où ça pêche. Et bien sûr, on finit par, en cantine scolaire, on finit par la consommation réelle, ce qui reste dans les assiettes. Et puis, en intelligence collective, on essaye de trouver des solutions. Donc voilà, cuisine plus adaptée, des recettes qui conviennent mieux, des quantités adaptables, des déchets qu'on valorise, le pain qu'on ne prend pas par paquet.
En tout cas pas par réflexe,
réflexe, c'est ça. Donc, justement, c'est drôlement mieux parce que derrière, si on réduit de façon significative le gaspillage, on peut acheter en restauration collective des produits de meilleure qualité puisqu'il y a une loi, c'est 50 la loi,
c'est toujours la loi Egalim,
c'est toujours la même c'est toujours la même.
C'est vrai que la loi Egalim elle a amené aussi cette réflexion sur la quantité,
50% de produits de qualité dont 20% de bio, voilà, oui. C'est ça.
Et puisqu'on mentionnait la question des déchets, lutter contre les déchets, avoir moins de déchets alimentaires, c'est aussi, ou en tout cas en faire quelque chose, ne pas les incinérer, c'est aussi une forme
c'est
de lutte contre le...
Ouais, voilà. C'est les composter, c'est pour redonner, et puis les laisser sur le territoire, pour redonner de la matière organique.
Oui, éviter les transports de déchets, c'est pareil, ça génère des gaz à effet de serre.
Et puis il y a beaucoup d'eau, c'est pas la peine de transporter de l'eau non plus, donc vraiment les laisser sur place. Et les deux ingénieurs agro, monsieur et madame Bourguignon, dont je parlais, on dit qu'en 50 ans, les terres avaient perdu la moitié de leur matière organique. Et que c'est pour ça qu'on suppléait avec les engrais. Donc, composter, c'est redonner de la matière organique. Comme ça, on fait des micro-confettis de matière organique, mais micro-confettis par micro-confettis, Bah, faut penser positivement.
Bien, alors on va penser positivement et on va donner nos conseils. Alors là, beaucoup plus pratico-pratique, terre à terre, sur, justement, par exemple, le rapport entre cuisine et électricité. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour consommer moins d'électricité en cuisine ?
Manger froid.
Déjà.
Oui, mais parfois, il faut avoir fait cuire quand même, même si tu manges froid ouais, à la braise.
Manger le poisson en ceviche.
Ceviche, c'est quoi ça ?
C'est du poisson cru qui a été cru et cuit dans du citron, de l'huile avec des herbes, etc. Et du coup, ça évite les cuissons.
Et oui, c'est vrai que le poisson ne cuit pas forcément avec du chaud.
Mais alors, si je fais un peu d'analyse de risque, et désolée pour la déformation professionnelle, du coup, comme on a de plus en plus de risques parasites dans le poisson, du coup, on ne cuit pas le poisson, mais il faut l'avoir congelé, décongelé avant pour tuer le parasite. Donc,
en termes d'énergie...
Je ne sais pas. C'est un vrai risque, hein, le risque de parasite.
Le citron ne tuerait pas le parasite.
Non, j'ai fait le test, j'ai tout essayé, le citron. Et puis dans les recommandations de l'ANSES, c'est vraiment la congélation, décongélation. Donc c'est un faux problème de dire qu'on ne va pas cuire non plus le poisson. Enfin voilà, c'est à double tranchant.
Bon, bah on ne mange pas de poisson alors en fait.
C'est un peu dommage aussi. Alors, ouais. le four solaire, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bah moi je m'en sers, mais c'est plus pour... de la fin de cuisson, c'est-à-dire je démarre la cuisson sur le feu, on va dire, et quand c'est bien chaud, là, quand c'est des légumineuses, enfin une cocotte bien fermée qu'on met dans le four solaire, voilà, et ça continue à cuire. C'est pas vraiment le principe du four solaire, c'est même plutôt une marmite norvégienne.
Alors c'est ce que j'allais dire, voilà. La marmite norvégienne, ouais. C'est quand même ça assez accessible.
C'est ça, tout à fait. On l'a fabriqué nous-mêmes. Ouais. Oui, parce que le four solaire, oui, là, si vraiment on attend un démarrage d'énergie avec des panneaux photovoltaïques, là, je pense que c'est d'un coût un peu élevé.
Donc marmite norvégienne.
La marmite norvégienne, pour faire court, c'est une marmite qui est super isolée. Donc tu mets un plat, effectivement, tu as démarré, et puis tu vas finir la cuisson, simplement en fait avec la chaleur qui était dedans et qui ne va pas sortir.
Ça peut être en tissu, une marmite norvégienne.
Oui,
hein,
c'est vraiment en fait un isolant. C'est, hein, c'est une marmite que tu mets dans un super isolant.
Pour tout ce qui est ragoût, ça convient très bien.
Toutes les cuissons lentes. Mmh. Alors voilà, moi je voulais quand même dire, parce que il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, mais à réchauffer au micro-ondes un plat tout fait, tu vois, c'est oui, il n'y a pas beaucoup d'énergie.
Ah,
c'est vrai.
Quand même.
Mais il faut quand même savoir qu'entre ce qu'on cuisine chez soi, alors idéalement en plus, c'est sur des circuits courts, voilà, mais ce qu'on cuisine chez soi et où effectivement on peut avoir l'impression d'utiliser plus d'énergie, et ce qu'on achète tout près dans le magasin et qu'on réchauffe, la quantité d'énergie pour la fabrication, elle est bien pire pour celui du magasin. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'elle est pas là. Donc faut pas non plus trop stresser les gens qui cuisinent, qui se disent, ah bah oui, j'allume mon four, je vais chauffer ma marmite, etc. Je consomme beaucoup d'énergie et de l'eau, enfin bref, je consomme. Oui, mais au total, vous consommez moins que si vous allez chercher quelque chose
tout près.
On pourrait, je sais que par exemple le riz ou les pâtes, on pourrait arrêter la cuisson plus tôt. Donc déjà, utiliser les couvercles, c'est tout bête à dire, mais utiliser les couvercles, ça économise l'énergie. Et savoir... Alors le problème, en fait, je le sais, parce que moi, c'est le problème que j'ai, c'est le dosage. Parce que les pâtes, par exemple, vous les faites cuire, vous goûtez pour savoir si c'est bon ou pas. Là, on est obligé d'arrêter avant. Il faut une certaine expérience, une certaine habitude, pour savoir qu'en s'arrêtant avant, ça sera bon quand on enlèvera les trucs. Mais le plus simple, c'est de trouver ces marques. Mmh. Effectivement, en se disant, j'arrête, je vois, je goûte, parce que de toute façon, c'est quand même en goûtant qu'on voit quand est-ce que c'est cuit. Et puis petit à petit, je vois jusqu'où je peux tirer le fait d'arrêter et de laisser finir la cuisson avec le couvercle. Mais oui, il y a des tas de petites habitudes qu'on pourrait prendre et qui économiseraient un peu d'énergie.
Et puis, il y a aussi l'autre aspect du changement climatique qui est ces chaudes journées pendant lesquelles, finalement, on va peut-être devoir adapter son alimentation pour des raisons plus de bien-être et de santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut boire, manger quand il fait très, très chaud ?
Des glaces et de la chantilly.
Sans chantilly.
Quand il fait très chaud, j'ai envie de dire réduire déjà ses quantités de sel.
et de sucre, parce qu'en fait, le sel donne soif, le sucre donne soif.
Ça déshydrate en plus.
Ça déshydrate. Alors, avec prudence quand même, parce que quand on transpire beaucoup, on perd beaucoup de sel et qu'il faut quand même
s'alimenter. Mais il y a des sels minéraux naturels dans les aliments, dans les fruits, dans les légumes, dans tout. Donc il y a des sels minéraux. Depuis toutes ces années, au niveau de l'agroalimentaire, on tend à baisser un petit peu les taux de sel, mais ce n'est pas suffisant.
Oui, moi c'est plus pour des raisons de santé. Mais
quand on selle naturellement, on est à peu près à 1% de sel. Donc je préconise de diviser par deux. Vous mettez deux fois moins de sel et vous avez les sels minéraux. Voilà. Et c'est bien. Pareil avec les sels nitrités déshydratent excessivement. Donc
tout ce qu'il y a dans la charcuterie. Quoi.
Voilà, exactement. Mmh. Je voulais pas le dire, mais
Mais disons-le, disons les choses. Ouais. Et donc moins de charcuterie en été. Hein. Ça vous fera pas de mal de toute façon.
Ouais, alors bonjour, les barbecues. Mmh. Hein.
Barbecue, c'est pas de la charcuterie, ouais. Mais oui.
Il y a non, pas que les nitrites, hein, dans le glutamate aussi, tout ce qui est à base de glutamate, tous les exhausteurs de goût en fait.
Ouais, qu'on trouve beaucoup dans la cuisine asiatique, surtout industrielle notamment.
Et donne soif, oui.
Bon, de l'eau, hein, parce que tu disais qu'est-ce qu'on peut, oui, de l'eau. On peut boire, ça reste quand même la base, c'est de boire l'eau. De l'eau.
Parce que l'alcool déshydrate aussi.
Tout à fait.
Exactement. Éviter l'alcool.
Tout à fait. Non, mais même les jus de fruits, c'est très sucré. Il faut rester sur le fait que quand on a soif, on boit de l'eau et on peut boire autre chose pour le plaisir. Et on doit se limiter à se dire je bois pour le plaisir et pas parce que j'ai soif. Mmh. On étanche d'abord sa soif avec de l'eau.
Et une recette fétiche de canicule à nous proposer?
Gazpacho.
Ah oui, excellente idée.
Excellent.
Une recette de gazpacho.
Excellent.
Alors,
tomate, concombre, poivron.
Rien ne cuit en plus.
Alors ça dépend, moi je préfère quand le poivron est cuit, j'avoue. Ah. Je trouve que c'est meilleur.
Ça t'enlève la peau et
ça donne un goût différent.
Oignon,
plus digeste.
Rien que tomate basilic, tout simplement.
Normalement, on met un peu de vinaigre.
Et les Espagnols mettent un petit peu de pain.
La recette de base, c'est même pas mal de pain parce que c'était à la base
une soupe nourrissante. C'était fait pour nourrir.
Après, il y a autant de recettes de gazpacho que de cuisiniers ou cuisinières de gazpacho.
C'est la crêpe.
Mais c'est vrai que c'est vraiment un concept intéressant, qui à la fois hydrate, qui peut nourrir si on met du pain, et qui du pain rassis en plus, là, ça évite le gaspillage.
Excellent.
Et c'est parfait pour la saison estivale en tout cas.
Et pour lutter contre la soif aussi, on essaye de se déshabituer un petit peu du goût sucré. Donc,
ça donne soif aussi.
Tout ce qui est édulcorant, là c'est sulfame K, l'aspartame, la stevia. Alors déjà c'est intense. Au niveau sucre, et après ça laisse une longueur en bouche très longtemps, et c'est pas bon.
Nous allons prendre en compte tous ces conseils, on vous remercie beaucoup, on remercie l'association 4CAR qui a vaillamment contribué à cette antenne. On vous retrouve encore dans Oustall un jeudi sur deux à 13h30, il y aura encore une émission en ce mois de juin, et sans doute d'autres la saison prochaine. Merci.
Merci, au revoir. Merci.
Merci.
Et bonnes vacances à tous.
Et bonnes vacances.